Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, je reçois François Kersaudy, spécialiste de l'histoire britannique et de l'histoire du début du XXe siècle. François Kersaudy, bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous parler d'un espion, ou plutôt d'une affaire, qui est l'affaire Cicéon. Alors vous venez de publier aux éditions Perrin un ouvrage consacré à cette affaire, et finalement cette affaire, pour nous, c'est avant tout un film avec Daniel Darrieux, l'affaire Cicéron. C'est la première étape de votre ouvrage.
Oui, Daniel Darrieux, James Mason, c'était le James Bond du début des années 50. On racontait l'histoire de cet extraordinaire espion qui avait photographié les documents les plus secrets dans l'ambassade de Grande-Bretagne à Ankara et qu'ils avaient vendus aux Allemands. Comme cet espion s'appelait James Mason et qu'il avait évidemment un talent fou, on était très attaché à cette histoire qui était un petit peu romancée mais qui était tout de même basée sur des faits exacts. Il y a eu effectivement une affaire d'espionnage extraordinaire et rocambolesque pendant la guerre entre 1943 et 1944. Et au cours de cette affaire, eh bien, les documents ont été photographiés, documents secrets, diplomatiques, de l'ambassade d'Angleterre et se sont retrouvés à Berlin sur le bureau d'Hitler. Début 44, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, c'est un moment où il était très mauvais que les Allemands puissent connaître les intentions stratégiques alliées. Et par conséquent, cette affaire d'espionnage a fait énormément de bruit. Évidemment, c'était un film. Ce qui restait à savoir, c'est qu'est-ce qu'il y avait de vrai là-dedans.
Alors justement, à cause de cette affaire, sort les mémoires des protagonistes, c'est la deuxième étape.
Voilà, deuxième étape, les gens qui ont participé à cette affaire ont écrit leurs mémoires. Cicéron, c'est-à-dire le domestique turc de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, le domestique indélicat qui a photographié ses documents secrets et qui les a vendus aux Allemands. Moisich, c'est-à-dire l'attaché commercial de l'ambassade d'Allemagne qui était en fait un espion du Sicherheitsdienst, c'est-à-dire des services de renseignement de la SS. L'ambassadeur d'Allemagne von Papen. L'ambassadeur d'Angleterre lui-même, celui qui a le sommeil lourd et qui se faisait photographier ses documents, le chef des services secrets nazis, tous ces gens-là, tous ces gens-là ont écrit leur mémoire. Et donc, à travers ça, on a une deuxième version un petit peu moins romancée de ce qui s'est passé, de cette affaire d'espionnage, qui nous permet déjà de comprendre un petit peu mieux, mais qui laisse quand même énormément de zones d'ombre, c'est certain. Hein ? Et puis, il y a une troisième étape. C'est une révélation d'un best-seller américain. Les Américains sont très forts pour faire des best-sellers sur l'espionnage, qui nous raconte au début des années 70, ça a été traduit en français naturellement, ça a eu beaucoup de succès, sur l'affaire Cicéron. Je vais tout vous révéler. Cicéron, c'était un agent britannique qui a vendu donc ce domestique turc. En fait, il a vendu de faux documents aux Allemands pour les tromper, et ce sont les Anglais qui le manipulaient. Bon, c'était presque crédible, sauf que en 2003 et en 2005, les services secrets britanniques ont ouvert leurs archives sur l'affaire Cicéron. Et c'est là qu'on sait exactement ce qui s'est passé, qui a menti, pourquoi, qui a fait quoi, et que l'on sait entre autres, bien entendu, que Cicéron non seulement n'était pas un agent anglais, mais qu'en plus les Anglais ignoraient tout de l'activité de ce monsieur et ont été d'un laxisme et d'une imprudence tout à fait extraordinaire, mais qui frise la négligence totale pendant la guerre dans leur ambassade à Ankara. Et que cet espion Cicéron a été quelqu'un de très malin, qui a su profiter de la distraction des Britanniques pour en tirer beaucoup d'argent.
Alors, il en tire effectivement beaucoup d'argent. Il va lui-même répondre aux questions d'un journaliste allemand.
Alors voilà, les Allemands, pendant la guerre, pour ces documents, qui étaient quand même des documents très précieux, il faut bien le dire, hein, c'était tout ce qu'il y avait dans les coffres-forts de l'ambassade de Grande-Bretagne à Ankara, donc sur les plans britanniques, hein, sur les plans alliés, sur les résultats des grandes conférences alliées au Caire, à Téhéran, etc. Et donc à Casablanca, enfin, les Allemands lisaient à livre ouvert, c'est grâce à lui, dans la stratégie alliée. Eh bien, pour ses services, il a été payé 300 000 livres sterling. 300 000 livres sterling, c'était quand même une somme colossale. mondiale. Hein, les Allemands lui ont remis cela. Après la guerre, sans être inquiété le moins du monde, avec une somme aussi colossale, eh bien, notre espion, Cicéron, s'est lancé dans les affaires en Turquie. Et il a fait de bonnes affaires. Il a même commencé à construire un grand hôtel à Brousse, à Bursa. Et puis il a été arrêté.
Pourquoi cela ?
Il a été arrêté parce que on s'est aperçu que les 300 000 livres qu'il avait écoulés, c'était des faux.
C'est-à-dire que les Allemands l'avaient payé avec des faux.
Avec des fausses livres made in Germany, qui étaient très bien imités, sauf qu'on a fini par s'apercevoir qu'elles étaient fausses. Et évidemment, les policiers turcs, qui ne sont pas tendres, hein, l'ont un petit peu chatouillé pour obtenir des aveux. Et lui a dit, mais enfin, c'est pas de ma faute, ce sont les Allemands qui m'ont trompé. Moi, j'ai trompé personne, je ne savais pas. Et on lui dit, prouvez-le. Et quand à la fin, il a réussi à échapper aux griffes de la justice après quand même un certain temps passé en prison, eh bien, on lui dit, oui, on vous libère. Mais maintenant, il faut rembourser. Et rembourser 300 000 livres sterling, ce n'était pas à sa portée. Parmi les choses qu'il a faites pour essayer de rembourser, c'était d'écrire ses mémoires. Sauf qu'en écrivant ses mémoires, il en était totalement incapable. Donc, il avait rédigé une chose sur un cahier d'écolier, mais ce n'était pas publiable. Donc, il est allé voir un journaliste allemand qui lui a dit « Bon, ben, on va en faire quelque chose de publiable. » Et là, ils ont fait du James Bond avant l'heure, avec des femmes fatales, avec des histoires, etc. Et c'est un petit peu là-dessus qui est basé, il faut bien le dire, le film. Non, le film était basé sur un compte-rendu précédent. Mais enfin, c'était pratiquement de la même eau, c'était encore du James Bond. Et bien entendu, c'est une version qui n'est pas vraiment fiable. Ceci dit, ça lui a quand même permis de se faire un petit peu d'argent. Mais comme il voulait échapper à ses créanciers, eh bien, il est allé s'installer à Munich pour toucher ses droits d'auteur. Et il a été interviewé en France, d'ailleurs, et ça, c'était amusant parce que l'interview par Alain Decaux montre à l'évidence que Cicéron ne savait pas ce qui était écrit dans ses mémoires. Et Alain Decaux lui dit « Mais vous avez bien dit cela ?» Il dit « Moi, non, je n'ai jamais dit une chose pareille. » Et Alain Decaux montre la page. Il dit mais enfin, ça... Ah, ça n'est pas moi que j'ai écrit une chose comme ça. » Parce qu'évidemment, il avait un français un petit peu macaronique. Et donc là, on s'est aperçu qu'effectivement, dans ses mémoires, il y avait beaucoup de romans feuilletons. Et puis bon, il est rentré en Allemagne, à Munich, pour toucher ses droits d'auteur. Et puis évidemment, les droits d'auteur, bon, ça a été un succès, ses mémoires, bien entendu. D'autant que c'était romancé, donc ça marche de la fiction, ça marche toujours mieux. Ceci dit, au bout d'un certain temps, évidemment, les droits d'auteur ont commencé à se raréfier. Et alors, à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une réclamation. Il a demandé à obtenir une retraite. Il faut dire qu'avant, il avait menacé de faire un procès au gouvernement fédéral allemand parce qu'il voulait qu'on lui rembourse ses 300 000 livres en marque. Le chancelier Adenauer, évidemment, a considéré qu'il n'était pas tenu par les exactions des nazis. On n'a jamais répondu. Mais là, quand il s'était installé, bon, il s'est installé à Munich, il a touché les droits d'auteur. Puis quand il n'en avait plus, il a demandé à bénéficier d'une pension. Et le Land de Bavière lui a versé une pension, en quelque sorte, une retraite d'ancien espion. Mmh. Et il est mort à Munich, assez bon, dans des conditions un petit peu misérable. Enfin bon, il avait une pension minimale. Et bon, c'est pas le plus grand espion du siècle. À côté de gens comme Trepper ou Zorg, il fait pas du tout le poids. Mais c'était quelqu'un d'astucieux qui a su profiter des occasions et qui a failli faire perdre la guerre aux Alliés, surtout, ce qui est beaucoup plus grave.
Oui. Alors justement, vous, François Kersely, vous êtes penché sur ces archives. Qu'ont-elles révélé, ces archives ?
Alors, les archives ont révélé que les Anglais ne savaient pas qu'on leur soustrayait leurs documents et qu'à partir du moment où ils l'ont su par l'intermédiaire des Américains qui, eux, avaient un espion à Berlin et qui leur ont dit qu'il y avait une fuite dans l'ambassade de Grande-Bretagne à Ankara, eh bien, ils ont envoyé des agents secrets pour enquêter et pour voir qui était à l'origine de la fuite. Seulement, James Bond n'était pas encore à la mode et les agents secrets en question n'ont absolument rien trouvé. Ils ont même interviewé ce domestique. Et dans leur rapport, parce qu'il y avait même leur rapport sur le domestique, c'est quand même amusant de lire ça après la guerre, et il y avait écrit ceci sur Cicéron, c'est un homme totalement inculte et qui de toute façon ne parle pas un mot d'anglais. Donc il n'est pas question qu'il fasse un espion, on n'en parle même pas.
Alors pourquoi l'appelle-t-on Cicéron ?
Alors, on l'appelle Cicéron, son vrai nom c'était Eliezer Bazna, c'était un Turc d'origine yougoslave. Il était né à Pristina, donc au Kosovo. Et à partir du moment où il a commencé à travailler pour les Allemands, l'ambassadeur von Papen, qui était un homme cultivé, a dit « il faut lui donner un nom de code, on va l'appeler Cicéron parce que les rapports qu'il photographie sont si éloquents ». Et donc, à partir de cette éloquence, il a eu le nom de code de 6 ans. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'a jamais su, avant 1949, je crois, que les Allemands l'avaient surnommé Cicéron. C'était son nom d'agent pour les Allemands.
Il se rendait vraiment compte de l'importance des documents qu'il transmettait ?
Absolument pas. Absolument pas. Il n'avait aucune idée, il n'avait pas le temps, il l'a dit après, longtemps après, dans ses mémoires, il dit qu'il lisait tout, bien entendu. Dans les interviews, par la suite, il a dit non, je n'avais pas le temps de lire, et ça se comprend, parce que son anglais était très approximatif, et puis ça parlait de choses qu'il ne pouvait pas, dont il ne pouvait absolument pas mesurer l'importance. Et donc on lui a demandé, mais alors, puisque vous ne lisiez pas ce qu'il y avait dessus, comment choisissiez-vous les documents ? Et il a répondu, évidemment, c'était un malin. Il a dit, oh ben c'est très simple, je ne photographiais que les documents estampillés secret ou top secret. C'était comme ça qu'il faisait son marché dans les archives de l'ambassade. C'était très efficace, il faut bien reconnaître.
D'autres révélations dans les archives anglaises ?
Alors, les révélations dans les archives anglaises, oui, parce que ce qui est amusant, c'est que même après la guerre, les Anglais ont quand même essayé de savoir qui était Cicéron. Et donc, ils avaient à ce moment-là tous les Allemands, tous les chefs des services secrets, tout le monde était à leur disposition, l'ambassadeur d'Allemagne, tout le monde, les espions du SD à Ankara, du Sicherheitsdienst, hein, donc c'est des services de la SS, tout le monde. Et donc, ils ont cuisiné, évidemment, pour un petit peu savoir. Ils ont fini des mois après la guerre par savoir qui était Cicéron. Mais alors, ce qui est extraordinaire dans ces archives, c'est que les Anglais ne savaient pas quel document avait été, exactement quel document avait été soustrait. Et dans le film de 1951, comme dans les mémoires de certains des protagonistes, pour que ça se vende mieux, pour que ce soit plus sensationnel, il était dit que Cicéron avait communiqué aux Allemands les plans du débarquement en Normandie. Ce que Cicéron lui-même confirme naturellement dans ses mémoires, puisque ses mémoires étaient écrits par un journaliste qui lui aussi voulait surtout qu'on se fasse de l'argent. Ce qui est extraordinaire, c'est que des années après la guerre, il y a dans les archives des services secrets un document disant « On nous demande en haut lieu de faire une enquête pour savoir si les plans du débarquement en Normandie figuraient effectivement parmi ceux qui avaient été transmis par Cicéron à Hitler parce que c'est très embarrassant pour le Foreign Office. » Et c'est amusant parce que le Foreign Office, dès 1949, quand les mémoires de l'agent secret allemand ont été publiés, l'agent traitant de Cicéron, si vous voulez, à l'ambassade d'Allemagne, eh bien, il était dit qu'il y avait les plans du débarquement en Normandie. Ça s'est retrouvé dans le film. Et à partir de là, gros scandale en Angleterre, interpellation du ministre des Affaires étrangères. Et chose extraordinaire, on suit dans les archives britanniques, les archives des services secrets, toute cette correspondance disant, est-ce qu'on peut savoir, parce que le ministre doit absolument pouvoir répondre devant le Parlement, est-ce que effectivement on a fourni les plans par l'indiscrétion, est-ce que les plans du débarquement en Normandie sont parvenus sur la table d'Hitler ? Et il n'en savait rien. Et la réponse du ministre des Affaires étrangères au Parlement était quelque chose d'absolument déconcertant, parce qu'il a dit, ces plans n'ont pas été volés, mais ils ont été photographiés, ce qui revient au même. Mais en fait, c'est complètement idiot, parce que même si les services secrets ne s'en sont pas aperçus, les plans du débarquement en Normandie n'ont jamais été volés, pour la bonne raison qu'ils n'ont jamais été envoyés à Ankara. Et pourquoi ils n'ont pas été envoyés à Ankara ? Tout simplement parce que ça ne concernait pas un ambassadeur de Grande-Bretagne, et parce que ces plans ont été élaborés par un service interallié qui s'appelait le COSAC, l'état-major du général Eisenhower, qui n'avait strictement rien à voir avec les affaires étrangères. Et par conséquent, il n'y avait pas le plus petit commencement de début de raison pour que les plans du débarquement se retrouve à Ankara. Il n'y avait que 8 personnes en tout en Angleterre, y compris Churchill et Roosevelt, qui étaient au courant des plans du débarquement en Normandie. Donc toute cette histoire, et les services secrets anglais auraient dû le savoir, je veux dire, c'était absolument croquignolesque quand, encore en 1949 et en 1952, qu'on en soit encore à se demander si les plans du débarquement en Normandie étaient arrivés à Ankara. Ça fait partie de la légende. Mais comme c'était dans le film et comme c'était dans les mémoires de l'Allemand en question, eh bien tout le monde le croyait. Et il y a d'ailleurs une fin à la fois attristante et émouvante. Le malheureux ambassadeur de Grande-Bretagne, et j'ai vu ses archives aussi, dans ses mémoires, il n'en dit pas un mot, bien entendu. Il prenait des pilules pour dormir et c'est là qu'on lui prenait tous ses documents. Mais il a vu le film, il a été catastrophé. Et on a sa lettre à un vieil ami qui était dans les services secrets. Et il lui a écrit ceci. « Bien sûr, j'ai été négligent quand j'étais à Ankara, je le reconnais, c'est certain, etc. Je vois dans la presse, au cinéma, partout, on dit que j'ai été l'homme stupide qui a permis à Hitler de connaître le secret du débarquement de Normandie. Je peux affirmer que jamais, au grand jamais, les plans du débarquement en Normandie ne sont arrivés chez moi pour l'excellente raison qu'il s'agissait de plans stratégiques et que moi, je ne m'occupais que de diplomatie et puis qu'il n'y avait effectivement absolument pas la moindre raison pour qu'on me les envoie. Je les ai jamais vus. Donc, il est certain qu'ils n'ont jamais été envoyés à Berlin. Mais les gens préfèrent les romans feuilletons, les gens croient tout ce qu'ils voient au cinéma. Et par conséquent, si je fais une dénégation dans la presse, personne ne me croira. Et il dit à son vieil ami des services secrets, écoute, je vais te demander un service. Quand je serai mort, dans mon oraison funèbre, je te demande d'écrire que l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Ankara était certes quelqu'un d'assez négligent, mais que jamais, au grand jamais, il n'a trahi son pays en faisant parvenir ou en laissant parvenir aux Allemands les plans du débarquement de Normandie. Ce qui fut fait, d'ailleurs, après la mort de l'ambassadeur. On a pu voir ça dans son oraison funèbre. Et ce qui était vrai, naturellement, dont acte, jamais, au grand jamais. Mais les gens le croient encore parce qu'ils l'ont vu, comme ils l'ont vu au cinéma, ils sont tout à fait convaincus. Puis il y avait des best-sellers qui l'ont dit, donc c'est forcément vrai. Vous
voyez et bien plus crédible que le Da Vinci Code, l'affaire Cicéron. François Kersaudy, je vous remercie. Je renvoie nos auditeurs à votre livre paru chez Perrin, l'affaire Cicéron. C'était Portrait d'espion. Il y aura bien d'autres portraits d'espions, notamment avec Fabrice d'Almeida. À très bientôt.